Le passage qu'on trouve ce matin, c'est un passage, un contexte particulier où il va y avoir une rencontre entre une femme qui est accusée, qui est condamnée déjà, et Jésus. Et puis tout ça va se passer dans une période particulière aussi parce que c'est la période d'une fête juive. On appelle ça la fête des tabernacles. Le tabernacle étant la maison de Dieu, la tente de Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc les Juifs avaient plusieurs fêtes traditionnel. Cette fête-là était fêtée chaque année et une des particularités de cette fête, c'est que le soir, on allumait des lampes énormes au temple qui éclairaient une partie de la ville et les prêtres juifs sortaient avec des torches et dansaient littéralement dans le temple pour fêter Dieu qui est la lumière des hommes. Et c'est dans ce contexte-là qu'au verset 12, Jésus va dire « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Et c'est une des clés pour comprendre ce que Dieu nous dit dans la Bible sur sa personne. Dans le passage, il est question de l'attitude de Dieu devant les êtres imparfaits et pécheurs que nous sommes. Il est question des jugements que nous portons les uns sur les autres, même à l'intérieur de l'Église aussi, mais entre nous, dans nos relations. Il est aussi question du fait que Christ nous accueille et ne nous condamne pas. Enfin, s'il ne nous condamne pas, il ne nous abandonne pas. Et on va voir comment il va interagir avec cette femme-là. Il ne nous abandonne pas à notre malheur, mais il nous guide vers la lumière. Et c'est une des idées importantes dans la Bible. Le fait que Dieu nous connaît, nous voit comme nous sommes, puis il nous aime, il ne nous condamne pas, mais il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il vient pour nous sauver, il vient pour nous guider. Et si on transpose ça dans l'Église, aujourd'hui, voici comment je dirais ça, l'Église de Jésus-Christ n'est pas là pour condamner le monde, mais pour accueillir avec grâce et accompagner les hommes et les femmes qui veulent suivre Jésus pour vivre une vie nouvelle. Je répète ça. L'Église de Jésus-Christ n'est pas là pour condamner le monde, mais pour accueillir avec grâce et accompagner les hommes et les femmes qui veulent suivre Jésus pour vivre une vie nouvelle. On va aller dans la prière puis on va lire ce beau passage de Jean. Seigneur Jésus, après tant d'années de vie chrétienne, j'ai encore besoin de me rappeler combien tu es un Dieu qui accueille le pécheur. Combien tu es un sauveur qui accueille, qui ne condamne pas celui qui se tourne vers toi, mais qui sauve celui qui est désemparé, celui qui constate son état, celui qui s'humilie devant toi, brisé par les conséquences de ses propres choix, de ses propres manquements, de ses propres fautes. Celui qui humblement reconnaît ses imperfections, ses péchés, tu l'accueilles, Seigneur. Et Seigneur, j'ai besoin encore, après tellement de décennies à marcher avec toi, que tu me rappelles ça constamment. Et comme Église, Seigneur, tu nous as placés dans ce monde pour annoncer ce message au monde. On se prépare à fêter Noël dans quelques semaines, Seigneur, puis c'est ce message-là qu'on veut proclamer. C'est ce message-là qu'on veut se partager les uns aux autres dans l'Église. L'Église n'est pas un lieu de condamnation, Seigneur. C'est un lieu de salut, de sauvetage, de rédemption, d'accompagnement dans la lumière. Alors, je te prie de nous parler ce matin par ta parole puissamment, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 1 à 12, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean 8, les versets 1 à 12. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Merci, Danny. Il y a quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Excusez-moi, je suis en forme ce matin. Versets 10 et 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et il lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est une drôle de parole, cette phrase-là. C'est comme une parole remplie de grâce. Tu sais, tu te présentes devant Jésus, puis tu as plein de gens qui mettent de la pression, puis on menace ta vie, on se prépare à te lapider. Littéralement, là, c'est ça la scène. Et puis, tu es amené à Jésus, tu t'attends dans le fond à ce que Jésus confirme. Parce que la manière que Jésus échange avec elle, il ne dit pas qu'elle n'a pas péché. Donc, cette femme-là s'attend à ce qu'il y ait une confirmation, puis s'attend à mourir. Puis les paroles de Jésus, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse encore? Où sont partis des accusateurs? Puis là, il lui dit, je ne te condamne pas non plus. Quelle parole de grâce incroyable. Quand on vient à Dieu, là, c'est toujours ça qu'on veut entendre, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne te condamne pas. En fait, on passe une partie de notre vie chrétienne à intégrer, à accepter, à vivre ces paroles-là, à vraiment les accepter et à dire, ah, je suis vraiment accueilli dans la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Mais en même temps, dans la même phrase, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. C'est comme s'il la condamnait. Comprenez? Je ne te condamne pas, maintenant, pêche plus. Comme on dirait en québécois. Ben, condamné. Est condamné par le fait même. C'est une drôle de phrase. Tu t'en vas où avec une phrase comme ça? Tu es soulagé, puis tu pars avec un fardeau. Tu es soulagé, puis si tu es lucide, tu te dis... Bon, je suis bon pour aujourd'hui. J'espère leur croiser de main et qu'ils vont me dire la même chose. Ce matin, on va voir ensemble que Jésus ne vient pas pour te condamner, mais pour te guider dans la lumière de la vie. Jésus ne vient pas pour te condamner, mais pour te guider dans la lumière de la vie. La loi de Dieu te condamne-t-elle? Il y a comme un... une idée qui traverse tout ce passage-là, même le passage de la semaine dernière, c'est cette idée de condamnation. Ceux qui étaient des ennemis de Jésus, déjà des autorités juives, qui n'avaient pas confiance en lui, ils avaient senti qu'ils n'allaient pas appuyer l'establishment trop, puis là, ils étaient en train de chercher comment l'éliminer. Puis là, il y a un moment où Nicodème va intervenir en la faveur de Jésus au verset 51, donc Jean 7, 51. Et puis, il va dire ceci, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » La loi de l'Ancien Testament était super claire. Quand il y a des accusations contre quelqu'un, il faut que tu cherches des témoins, il faut que tu écoutes l'accusé, il faut que tu valides les choses. Tu dois écouter. Puis tout ce qu'il avait dit, c'est « Écoutez, regardons-le aller. » Laissons-le aller, on va voir si vraiment c'est quelqu'un qui est contre Dieu. Le temps va dire les choses, on va l'écouter, puis on va voir ce qu'il y en est. Maintenant, ce thème-là de condamnation traverse le passage. Je veux dire, la foule d'hommes qui amènent cette femme-là l'ont déjà condamnée, et puis ils cherchent une condamnation de la part de Jésus, puis Jésus va dire, moi, je ne te condamne pas. Voyez-vous, donc cette idée-là commence avec, est-ce que Jésus est condamnable lui-même? Eux, ils l'ont déjà condamné, cette femme-là. Et puis Jésus lui dit, non, moi, je ne te condamne pas. Cette idée-là traverse tout le passage. Au verset 3, chapitre 8, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. » Le texte nous dit qu'ils l'ont surprise. Bon, si tu es attentif un peu au texte, il y a un problème avec le texte parce que c'est le genre de péché que tu ne fais pas seul. Donc, il devrait y avoir un co-accusé, n'est-ce pas? Mais il n'est pas là. Est-ce que c'était un de leurs amis? Est-ce qu'il s'est sauvé en courant? On ne le sait pas. Mais il n'est pas là, puis eux autres trouvent que c'est légitime de venir accuser cette femme-là seulement. Assez étrange. Mais eux l'ont condamné. Puis en fait, le texte, la manière qui est écrit, la condamne. Elle est surprise en délit d'adultère. Donc, c'est clair, le texte le dit, le narrateur nous dit qu'elle est condamnable. Versets 5 et 6, ils se présentent devant Jésus, cherchant à piéger Jésus. Ils veulent qu'il se coince lui-même avec ses propres paroles. Versets 5 et 6, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et donc, ils veulent essayer de le coincer. Ils veulent essayer de le coincer soit politiquement en l'amenant à approuver un meurtre qui aurait pu ensuite amener devant les autorités religieuses, soit en le rendant odieux devant la population. Mais ils essaient de le coincer avec ses paroles. Le passage juste avant a dit quoi? Il a dit, bien, écoutez, notre loi dit qu'il faut écouter un accusé avant. Donc, on va aller le coincer avec ses propres paroles. On va l'écouter parler. On veut condamner Jésus. On veut le rendre condamnable à son tour. Verset 7, « Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » C'est vraiment un beau passage parce que Jésus va renverser complètement la situation. Et finalement, tout le monde va finir par partir. Les accusateurs, devant cette phrase-là de Jésus, réalisent qu'ils sont eux-mêmes condamnables. Ils vont se retirer. Ils vont partir. Ils sont trouvés eux-mêmes condamnables. Si nous voulions être honnêtes, on reconnaîtrait qu'on est tous condamnables. C'est pour ça que je disais en introduction que l'Église n'est pas là pour condamner. L'Église n'est pas là pour condamner parce qu'on est tous condamnables. On est tous sur le même pied d'égalité. L'apôtre Paul va dire dans Romains 3, en comparant les Juifs avec les non-Juifs, les Juifs qui avaient la loi de Dieu, qui savaient comment marcher selon Dieu, les non-Juifs qui n'avaient pas la loi de Dieu prescrite par Moïse, mais il y avait la loi de Dieu dans leur conscience quand même, puis leur conscience pouvait les accuser. On lit dans Romains 3, les versets 9 à 18, « Quoi donc, sommes-nous plus excellents en parlant des Juifs? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, en voulant dire les non-Juifs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Intelligence dans le sens de cette piété, cet amour de la sainteté, de chercher Dieu, de vouloir marcher selon Dieu. Il dit, non, on manque tous à quelque part. Chacun d'entre nous, même les plus pieux d'entre nous, tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre, un tombeau ouvert qui sent le cadavre. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils aiment la violence. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Hey, c'est l'histoire des hommes, ça. Et c'est pas que l'être humain ne fait jamais rien de bien. C'est pas que l'être humain n'agit jamais avec compassion. C'est pas ça que Paul est en train de dire. Il est en train de dire que fondamentalement, nous sommes des êtres affectés par le péché. Corrompus, et il n'y a personne de vraiment pur. Souvent, si on voulait être honnête avec nous-mêmes, nous reconnaîtrions que même dans nos gestes qu'on estime être les plus purs, il y a encore de l'orgueil qui est là. Tu as juste à poser un geste d'une très, très grande bonté, puis que quelqu'un remercie quelqu'un d'autre à ta place, l'attribue à quelqu'un d'autre. Regarde spontanément ce qui vient dans ton cœur. Ah, mais c'est moi qui ai fait ça. Si nous voulions être honnêtes, on reconnaîtrait qu'on est tous condamnables. Et c'est ça que ce passage-là est en train de souligner. Cette femme-là est condamnable. Elle a été surprise en délit d'adultère. Elle est infidèle. Mais la foule qui vient l'accuser est tout aussi condamnable. Jésus le remet en pleine face. Et donc, si on voulait être honnête, on reconnaîtrait qu'on est tous condamnables devant Dieu. Maintenant, comment est-ce que nous, on justifie en général? C'est en se comparant avec les autres. C'est ça que cette foule-là est en train de faire. Hein? Je veux dire, ils ne voient pas leur péché du jour parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a commis un plus grand péché. Moi, quand je lis les médias, quand je me promène sur Twitter, sur Facebook, je passe mon temps à juger. Littéralement, je passe mon temps à trouver du monde qui font plus dur que moi. J'ai comme un détecteur de pécheurs chez les autres qui est hyper puissant. Il s'agirait que je passe une journée avec vous puis je trouverais deux, trois affaires qui ne marchent pas dans votre vie. C'est ça qu'ils font. Et comment est-ce qu'on se soulage? C'est en trouvant des gens plus condamnables que nous. Mais l'Église n'est pas là pour condamner. Si on voulait être honnête, on reconnaîtrait qu'on est tous condamnables. À l'exception d'un seul. Celui qu'il voulait condamner. C'est triste à dire, mais cette femme-là est juste un outil entre leurs mains pour faire le mal, puis essayer de démontrer que Jésus est condamnable. C'est assez pathétique, la méchanceté du cœur humain. N'est-ce pas? Se préparer à lapider cette femme-là, alors que peut-être que c'est leur chum qui s'est poussé, là. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent condamner Jésus. Ils veulent le piéger avec ses propres paroles. Jamais, jamais, personne n'a réussi à exposer un péché chez Christ. Il est le seul qui n'est pas condamnable. L'ironie absolument extraordinaire de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que le seul qui n'est pas condamnable va être condamné pour nous. Deux Corinthiens 5:21. Celui qui n'a point connu de péché, l'apôtre Paul parle de Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsque Christ est sur la croix, Christ est fait péché, c'est-à-dire qu'il prend la condamnation de nos péchés. Lui qui n'est pas condamnable s'offre en sacrifice prenant notre condamnation à notre place. Je le dis souvent, je le répète à l'Église, si on avait entendu la réponse du Père lorsque le Fils s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » La réponse est là dans son silence, mais si elle avait été audible, ça aurait été quelque chose du genre « parce qu'en ce moment, mon Fils, tu es l'être le plus ignoble de l'humanité à mes yeux. Parce que Christ a été fait péché à ma place. » C'est la douce ironie de l'Évangile. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ah, écoute, si tu n'as pas compris ces paroles-là, puis si ce n'est pas dans ta vie, je prie que ce soit une réalité dans ton cœur, dans ta vie. C'est la plus belle des choses qui peut t'arriver. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Quand tu te présentes devant un juge, tu attends une chose ou l'autre. Ce que tu espères, c'est que tu vas être exempté. Ce que tu crains, c'est d'être condamné. Est-ce que j'ai raison? Tu te présentes devant un juge. Il y a deux options. Tu espères qu'il va te déclarer innocent, exempt de toute faute. Puis tu crains qu'il te condamne. Le juge n'est pas là pour te sauver. Le juge est là pour juger. Le juge est là pour déclarer si tu es condamnable ou si tu es innocent. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus n'est pas venu comme un juge. Jésus ne te condamne pas. Versets 10 et 11, toujours dans Jean 8. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Dans Jean 3, au verset 17, donc un peu plus tôt dans l'Évangile de Jean, on lit ceci, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe avec cette femme-là. J'ai appelé ça la grâce d'être exposée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez avec nous lorsqu'on a vu la femme samaritaine ensemble, puis Jésus, dans son dialogue avec elle, comme il la piège un petit peu pour l'amener à se dévoiler, puis à se dévoiler, puis à se dévoiler. Puis finalement, elle est obligée d'exposer que sa vie, c'est n'importe quoi. Sa vie est complètement déréglée. Et ça prenait cette exposition-là. Il faut qu'elle soit ouverte. Il faut que ce soit franc jeu avec Dieu pour que la grâce puisse être présente, pour qu'elle puisse être graciée, qu'elle puisse recevoir la grâce, être sauvée par Christ. Il faut qu'elle soit exposée. Fait que l'ironie dans ce passage-là, c'est que la personne qui va être bénie, c'est la personne qui est exposée. C'est contre-intuitif pour nous. Nous ne voulons pas être exposés. Je ne veux pas être exposé. Je veux régler mes affaires moi-même. Je ne veux pas qu'on voit ce que j'ai fait de mal. Mais sans que le péché soit exposé, il n'y a pas de grâce possible. Tu n'entendras jamais la voix de Dieu qui va te dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas si ton péché n'est pas dévoilé devant Dieu. » Alors, quand je dis que l'Église n'est pas là pour condamner, dans notre relation, dans nos relations les uns avec les autres, lorsqu'on dit qu'on est là pour se rappeler l'Évangile les uns aux autres, ça présume, ça veut dire qu'on développe une culture ensemble dans l'Église où je sais que je peux aller exposer mon péché à un frère, je sais que je peux aller exposer mon péché à une sœur et je ne serai pas condamné. Mais que je vais être accueilli comme Christ pour qu'ensuite on puisse me rappeler l'Évangile. Mais si l'Église est là, puis on se donne bonne conscience à nous-mêmes en jugeant les autres, puis en se jugeant les uns les autres, en jugeant le monde, comment est-ce qu'on va faire pour annoncer l'Évangile? Non, il faut que la personne puisse venir à moi et que ce soit sécuritaire d'être exposé parce que je vais être accueilli par la grâce. Et ça, c'est une culture d'Église. C'est ça, se rappeler l'Évangile les uns aux autres. Quand je suis dans mon coin, puis mon réflexe d'homme pécheur, c'est de m'isoler, de m'isoler, de m'isoler, parce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas, puis je n'ai pas envie d'être exposé, puis je m'éloigne des relations humaines, je m'éloigne de plus en plus de l'Église, je prends de la distance. J'ai besoin de savoir que l'Église est cet endroit où je ne suis pas condamné, mais où je suis accueilli avec la grâce de Jésus-Christ. Cet endroit sécuritaire, comme cette femme-là, qui était en danger jusqu'à temps qu'elle soit dans la présence de Jésus. Lorsqu'elle est arrivée dans la présence de Jésus, c'est devenu safe space, vraiment, sans hypocrisie, son péché à elle pouvait être exposé. Parce que Jésus n'était pas là pour la condamner. La grâce d'être exposé. Si dans ton rapport avec les chrétiens, ça ne fait pas partie de ta vie chrétienne, de confesser tes péchés entre hommes ou dans un petit groupe ou des choses qui se partagent. Puis quand c'est très intime, je vais prendre un temps entre hommes, on va aller partager ces choses-là, des femmes ensemble. Puis... Mais si ça ne fait pas partie de ton style de vie, de ton rythme de vie chrétienne, écoute bien ça, si ça ne fait pas partie de ton rythme de vie chrétienne, il y a une dimension de l'Évangile. Soit que tu n'as pas compris, soit qu'elle est absente de ta vie. Lorsqu'on dit que l'Évangile est un trésor inestimable qui nous transforme de jour en jour, si ceci ne fait pas partie de ta vie, avoir la possibilité d'aller t'exposer pour que quelqu'un te rappelle l'Évangile, il y a une dimension de l'Évangile qui ne fait pas partie de ta vie. Puis l'Église doit être cet endroit-là où c'est safe d'être exposé. Maintenant, Jésus lui dit aussi, il lui dit, « Va et ne pêche plus. » Je ne te condamne pas non plus, « Va et ne pêche plus. » C'est quoi cette phrase-là? « Va et ne pêche plus. » C'est une condamnation en soi, on l'a dit. Tout à l'heure, on a dit que le juge, quand tu te présentes devant lui, il est là pour soit te condamner, soit t'exempter. C'est vrai? Soit qu'il va te condamner, soit qu'il va t'exempter. Jésus, lui, est là ni pour te condamner, ni pour t'exempter. Est-ce que vous me suivez? Jésus est là ni pour te condamner, ni pour t'exempter. Parce qu'il ne se présente pas comme un juge, mais comme un sauveur. Comme un guide qui vient te conduire dans une vie nouvelle. Et donc, lorsque tu reçois cette grâce de saisir la bonne nouvelle de ce que Christ a fait en mourant sur la croix, en prenant tes péchés à ta place, t'oses venir t'exposer dans sa présence et tu reçois cette grâce-là qui dit « Je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche plus. » Puis là, tu dis « Mais qu'est-ce que je fais? » Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans l'Évangile de Jean, il y a, ceux qui sont familiers avec l'Évangile de Jean, il y a 7 « Je suis », une formule en grec qui est particulière, « Je suis ego eimi ». Puis ça apparaît 7 fois, 7 déclarations où, à travers c'est unique à l'Évangile de Jean, des 4 évangiles, c'est le seul où c'est présenté comme ça, formulé comme ça. Et il y a une révélation progressive de la personne de Jésus. On en a déjà vu un, puis on va célébrer tantôt le repas du Seigneur qui évoque ça quelque part. Je suis le pain de vie. Dans le passage ici, je suis la lumière du monde. Plus tard, il va dire, je suis la porte par laquelle on accède à Dieu, on entre dans le royaume de Dieu. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis la résurrection et la vie. 6e, je suis le chemin, la vérité et la vie. 7e passage, je suis la vigne, vous êtes les sarments. 7 fois, il va dire, je suis. Et puis ici, il dit, je suis la lumière du monde. Le thème de la lumière dans la Bible est super important. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël fuit, sort de l'Égypte, il va être conduit dans le désert, dans un long pèlerinage, et il va suivre de jour une colonne de nuée et de nuit une colonne de feu, qui est là pour le guider. C'est la lumière de Dieu qui est en train de guider Israël à travers son pèlerinage. Et non seulement cette lumière-là est là pour le guider, mais elle est là pour le protéger. Lorsque des adversaires viennent pour attaquer Israël, cette colonne-là va se déplacer puis elle va aller derrière. Alors que les autres sont en train de fuir, elle va se déplacer, elle va venir derrière, s'interposer. De nuit, une colonne de feu qui est là. La Bible, la parole de Dieu, nous est présentée comme cette lumière qui éclaire notre sentier. Et dans Jean 1, il nous est dit que la lumière est la vie des hommes. Jésus arrive ici puis il dit, « Je suis la lumière du monde. Pendant cette fête des tabernacles, où on fêtait cette lumière-là, qui est la lumière de Dieu qui nous conduit hors des ténèbres. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant pendant qu'on est en train de conclure. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. À cette femme-là, à qui il dit « va et ne pêche plus », il est en train de dire « suis-moi, marche à ma suite maintenant ». Parce que Jésus est venu ni pour nous condamner, ni pour nous exempter. Il est venu pour nous offrir son pardon, une fois qu'on est exposé, puis nous guider dans la vérité. Et on va le voir la semaine prochaine, on va développer ça davantage la semaine prochaine. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Suivre Jésus, c'est apprendre à vivre dans une nouveauté de vie. C'est apprendre à marcher autrement. C'est apprendre à l'imiter. Puis il vient de nous dire dans le passage précédent, on a vu ça avec le pasteur Éric la semaine dernière, mais il nous donne son Esprit Saint qui nous conduit dans cette lumière. Alors, on apprend comme Église, une fois qu'on a reçu l'Évangile, une fois qu'on a été pardonné de nos péchés, une fois qu'on s'est exposé puis qu'on a entendu la voix de Christ qui nous dit « Je ne te condamne pas non plus », on apprend ensuite à suivre Jésus, à marcher à sa suite. Il vient nous guider dans ses voies parce qu'il est la lumière du monde. Il nous appelle à sortir du péché. Donc, Christ ne me condamne pas, mais il ne m'exempte pas de marcher à sa suite. Il veut me conduire dans ses voies. C'est comme une espèce de tension qu'on ne comprend pas bien tant qu'on ne saisit pas bien l'Évangile. Plusieurs entendent de l'Évangile que Jésus a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Ça ne s'est pas arrêté là. Il dit, « Va et ne pêche plus. » Oh, mais comment je fais ça, Seigneur? Comment je fais pour ne plus pêcher? Moi, je suis un pêcheur. Je vais recommencer demain matin. Je vais pêcher dans 5 minutes. Hey, ça se peut que je descende tantôt et que je me dise, « Hey, good job, mon homme. » Alors que je devrais dire, « Seigneur, c'est toi, c'est ton message, c'est pas le mien. C'est ta gloire, c'est pas la mienne. Comment je fais? Va et ne pêche plus. » Je suis Jésus. Je vais marcher à sa suite. Je vais apprendre à l'imiter. Et j'ai son esprit qui est en moi. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement. Cette semaine, mon cœur était troublé. Profondément troublé. Tellement troublé que j'ai dit à ce temps, je ne peux pas en parler. À mon épouse, à qui je partage tout, j'ai dit, je ne suis pas capable d'en parler. Et ma prière, c'était quoi? Toi, la lumière du monde, viens me conduire. Montre-moi qu'est-ce que tu attends de moi maintenant. Parle-moi, guide-moi. Parce que moi, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Ces questionnements-là, ces bouleversements-là, ça va tourner au vinaigre dans mon cœur, dans mon âme. J'ai besoin que tu me conduises. Puis il me donne cette promesse-là. Il me donne cette belle promesse-là. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans le péché. Il ne marchera pas dans le péché. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Le Seigneur est tellement bon. L'Église de Jésus-Christ n'est pas là pour condamner le monde, mais elle est là pour accueillir avec grâce et accompagner les hommes et les femmes qui veulent suivre Jésus-Christ pour vivre une vie nouvelle. Et c'est ça qu'on veut être comme Église. Et si à quelque part le Saint-Esprit te fait entendre sa voix, puis l'Évangile commence à résonner dans ton cœur, dans ton âme, accepte d'être exposé. Va vers un chrétien, va vers un ami que tu connais qui est chrétien, puis dis-lui, écoute, j'ai besoin de mettre ma vie sur la table devant toi pour que tu m'aides à comprendre la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. J'ai besoin que tu me racontes qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a été fait péché à ma place. J'ai besoin ensuite que tu m'accompagnes. J'ai besoin d'être accompagné. C'est ça, à ça que sert l'Église. On est là pour accompagner les gens alors qu'ils apprennent à suivre Jésus. C'est à ça que sert l'Église de Christ. Si comme chrétien, quand tu pèches, tu règles ça seul avec Dieu, c'est bien de le faire spontanément, mais régulièrement, tu devrais pouvoir mettre ça sur la table avec un frère, avec une sœur. t'exposer et vivre cette Église qui n'est pas là pour condamner, mais qui est là pour guider, pour accompagner des gens qui veulent marcher à la suite de Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, je suis tellement en sécurité dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur, dans la présence de ton Église, animée par ton Esprit Saint, c'est l'endroit, Seigneur, où je n'ai plus à cacher qui je suis. C'est l'endroit où je n'ai plus à faire semblant. Et Seigneur, ma prière, c'est que l'Église de l'espoir, que ton Église, Seigneur, soit cet endroit sécuritaire où je peux être exposé sans être en danger. Parce que ce ne sera pas la condamnation que je vais recevoir, mais l'Évangile de la grâce, Seigneur. La bonne nouvelle de la grâce, Seigneur. Enseigne-nous comme Église à transpirer dans nos attitudes, nos comportements, nos paroles, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et à accompagner les gens, Seigneur, à marcher à ta suite. Toi, Jésus, la lumière du monde. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin dans ce temps du repas du Seigneur, dans ce temps de louange. On veut élever nos âmes vers toi, Seigneur. On veut se tourner vers toi. On veut te célébrer parce que tu es la lumière du monde. Amen.
Amen. Amen.